Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Pour qui la médaille de plomb à 2 ans des JO de Paris? À qui la faute après le chaos samedi aux abords du Stade de France avant la finale de la Ligue des Champions? Réunion ce matin au ministère des Sports, nous y serons. Et premiers enseignements avec Nathalie Yanetta, la directrice des Sports de France Inter. Vers un embargo sur une bonne partie du pétrole russe, mais pas tout. Lors du sommet européen tout à l'heure, les 27 devraient bloquer le pétrole livré par bateau. Pas tous les oléoducs pour rassurer la Hongrie enclavée et dépendante de Moscou. La chef de la diplomatie française à Kiev et Boutcha ce matin où l'armée russe est accusée de crimes de guerre. Qui est l'homme qui a lancé cette guerre en Ukraine? Toutes vos questions sur Vladimir Poutine dès maintenant, 01 45 24 7000. À 13h30, nous serons avec Philippe Collin, auteur du podcast Poutine, le tsar soviétique, pour les auditeurs de France Inter, et la journaliste Isabelle Mandreau, qui a coécrit Poutine, la stratégie du désordre. Dans l'actualité encore, le manque d'infirmières dans les hôpitaux de Paris.
On en a 1000 de moins qu'il y a un an à la même époque. On avait prévu de créer 400 postes supplémentaires, on n'a pas pu les créer. Donc il nous manque 1400 infirmières par rapport à ce qu'on aimerait avoir.
Martin Hirsch, directeur de l'APHP, invité de France Inter ce matin, nous l'entendrons plus longuement. Il parle de situation sévère. Début de la campagne officielle pour les législatives. Le vote, c'est dans 13 jours. Dans l'actualité aussi, les 30 ans d'Arte. Les Molières du théâtre, de retour à la télévision. C'est Alex Vizorek qui anime la soirée. Il est avec Frédéric Pommier tout à l'heure, le temps d'une chanson. Et dans le vif de l'histoire, le début de règne très particulier d'Elisabeth II avant le jubilé pour les 70 ans cette semaine. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La ministre des Sports et des Jeux Olympiques ne pensait sans doute pas avoir une prise de poste aussi chaotique. Réunion ce matin chez Amélie Oudéa-Castéra. Il faut tirer les leçons du chaos samedi soir au Stade de France, le stade qui a accueilli la finale de l'Euro 2016 il y a 6 ans, et l'année prochaine celle de la Coupe du Monde de rugby avant les JO 2024. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Ministre de l'Intérieur, représentant du Stade de France, de l'UEFA, l'Union Européenne du Foot, qui organisait la finale Liverpool-Real samedi, représentant de la police à Paris et en Seine-Saint-Denis, de la mairie de la ville où est implanté le Stade de France. Voilà ceux qui étaient convoqués autour de la table. La réunion a pris du retard?
Oui, tout le monde est arrivé à l'heure, hein, pourtant, mais aucun des intervenants n'est encore sorti de la salle et on attend donc les prises de parole des ministres de l'Intérieur et des Sports, hein, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra. À croire que dans ce fiasco, les 30 000 à 40 000 Anglais sans billets ou avec des faux billets qui se sont présentés samedi soir au Stade de France et pointés du doigt depuis ne sont pas les seuls fautifs, hein, alors que tout le monde se rejette un peu la balle. La réunion doit vraiment permettre d'identifier tous les manquements et les défaillances dans le dispositif de sécurité et dans la gestion des flux des supporters, notamment dans le problème des préfiltrages mis en place par la Fédération française de football et mis en cause ce matin par la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y avait aussi assez de stadiers, de forces de l'ordre, de coordination entre les deux services? Voilà les questions auxquelles doit répondre la réunion. Question majeure alors que les images du fiasco tournent en boucle sur les télés européennes et que la France s'apprête, vous l'avez dit, à accueillir la Coupe du Monde de rugby dans un an, puis les Jeux Olympiques en 2024.
Fanny Lechevestrier en direct du ministère avec Johanna Gabric pour France Inter. On vous retrouve dans le cours du journal s'il y a du nouveau. Il y a 1000 questions ouvertes par ces scènes de bousculade qui ont amené à déclarer le coup d'envoi de la finale de plus d'une demi-heure samedi des Calais. Comment se fait-il qu'il y avait encore autant de spectateurs aux abords du stade à quelques minutes du début du match? Quelle part dans le fiasco à la grève sur le RER B qui mène au Stade de France? Manque de moyens de sécurité, qu'il s'agisse de la police nationale ou de sécurité privée? L'attitude des hommes de sécurité, autre question, et puis celle des supporters bien plus nombreux que ne pouvait en contenir le stade. 30 à 40 000 personnes en plus, selon le préfet de police de Paris, qui saisit la justice pour fraude massive aux faux billets. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Sur cette question, que sait-on 36 heures après le match?
Sur les 30 à 40 000 personnes en trop aux abords du stade, a priori, c'est surtout une grande majorité de supporters de Liverpool qui n'avaient pas de billets du tout. Pour ce qui est des faux billets, ce serait à la marge, mais les différentes sources policières que nous avons eues ce matin maintiennent qu'il y a eu un vrai phénomène. Aucun chiffre officiel pour l'instant, c'est l'UE. UEFA qui détient cette donnée de ces faux billets imprimés qui ont fini par planter les scanettes au tourniquet de l'entrée du Stade de France. Que l'on sait, c'est que l'UEFA avait accepté exceptionnellement que les supporters anglais puissent se présenter avec des billets imprimés, mais un certain nombre avaient le même code barre avec des noms différents. Les supporters espagnols, eux, avaient leurs billets sur leur smartphone et il n'y a eu aucun souci. Une enquête judiciaire va donc être lancée par le parquet de Bobigny pour savoir s'il y a eu une petite mafia derrière la vente, peut-être de quelques centaines de faux billets, mais qui ont suffi à provoquer un engorgement fatal en plus du reste.
Et puis, autre question, parmi les images qui ont choqué, il y a ces supporters qui n'avaient rien demandé et que les policiers ont aspergé de gaz lacrymo.
Oui, quelques images. Il y a une semaine, lors d'un briefing au ministère de l'Intérieur, on vit des prochains Jeux Olympiques, la consigne était que les policiers français apprennent à être bienveillants et souriants sur le mode des bobbies anglais. Les policiers britanniques, on a vu qu'il y a encore du travail.
15 personnes sont toujours en garde à vue ce matin. Il n'y aurait aucun supporter étranger parmi les gardés à vue, selon le parquet. Bonjour Nathalie Yannetta.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Directrice des sports à Radio France. Ce matin encore, la ministre des sports avait des mots durs pour le club de Liverpool. Qui a laissé, dit-elle, ses supporters dans la nature? Depuis ce week-end, le gouvernement les pointe du doigt. Est-ce que c'est la bonne piste?
Alors, Liverpool, on leur doit, je crois, au contraire, d'avoir évité que le fiasco se transforme en drame. Ils ont une culture de la catastrophe, les supporters de Liverpool, dans des mouvements de foule à la bord d'un stade. Soit ils sont nés et tatoués la catastrophe d'Hillsborough. Vous savez, ce fameux match qui a fait 97 morts avec ces images insoutenables de gens qui avaient été écrasés contre les grilles. Donc, ils ont au contraire permis, parce que leur colère ne s'est pas exprimée de manière violente et qu'ils ont plutôt été dans la réserve et dans la peur, réussi à faire en sorte que ce qui a encore une fois été un fiasco ne se transforme pas en drame humain.
Alors, 30 à 40 000 personnes en plus de celles que pouvait contenir le Stade de France. Il y a déjà eu 3 finales de Ligue des Champions au Stade de France. Il y a eu une finale de Coupe du Monde. On a rappelé les événements qui se tiendront. Puis il y a eu l'Euro 2016, il n'y a pas si longtemps en France. On ne sait plus faire, on ne sait plus gérer ce genre d'afflux de personnes.
Les choses ont beaucoup changé en 6 ans, notamment dans la doctrine du maintien de l'ordre et de la gestion des supporters. Ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on assiste à quelque chose d'assez inédit en Europe. Franchement, il n'y a que chez nous que ça se passe comme ça, l'interdiction de déplacement de supporters lorsque leur équipe joue à l'extérieur. Il y a toujours des raisons, y compris des raisons, alors vraiment parfois on nous a expliqué qu'on pouvait pas aller à Lille parce qu'il y avait une brocante, mais c'est véridique. Donc aujourd'hui, il y a un problème de gestion des supporters dans notre pays pour tout un tas de raisons, une forme de mépris de classe, on a toujours mieux à faire, et puis les supporters, vous comprenez, c'est ceux qui se comportent mal. Résultat des courses, c'est ce qui finit par arriver, et on l'a vu hier soir sur la pelouse de Saint-Etienne à l'occasion du match retour de barrage. Donc il y a une espèce de non-maîtrise du sujet et de l'objet supporter dans notre pays depuis de très longues années. Et c'est vrai qu'à l'Euro 2016, les choses étaient évidemment différentes, y compris de la part des supporters. On sortait des attentats de 2015. Tout le monde a joué le jeu, y compris venir beaucoup plus tôt au stade. Il y avait plusieurs points de contrôle. Les files étaient extrêmement bien gérées pour pouvoir justement éviter les filets d'étranglement et les goulots d'étranglement auquel nous avons assisté au Stade de France samedi. Donc oui, je crois que malheureusement, on ne sait plus faire.
Et vous me disiez, la semaine dernière, finale de la Ligue Europa à Séville. Ouais. Alors oui, il y avait des supporters en trop, si j'ose dire, à Paris.
100 000 supporters, 100 billets à Séville. Ouais. D'accord. 40 000 dans le stade, 100 000 à l'extérieur, en proportion quasi équivalente entre les Allemands qui s'affrontaient, ceux de l'Eintracht Francfort face aux Écossais de Glasgow. Il y avait 4 fan zones dans la ville de Séville. Il n'y a pas eu de problème pour l'accès du stade. Il n'y a pas eu de problème de maintien de l'ordre public. Il y a eu des bastons dans la soirée. Il faisait 40 degrés. Ils ont tendance, ces deux populations-là, à consommer beaucoup d'alcool. Mais en dehors de ça, tout s'est très bien passé. Il faut apprendre à connaître les supporters que nous accueillons. Les supporters anglais se déplacent souvent, même quand ils n'ont pas de billets. Ce qui n'était pas le cas des supporters madrilènes, qui eux ont l'habitude de se déplacer uniquement s'ils vont aller au stade.
Emmanuel Leclerc, un petit mot?
Mais oui, parce que là, en fait, il y a eu des préfiltres et l'esplanade du Stade de France n'était pas autorisée, mais c'est pas la police qui l'a interdite.
Ça, c'est
la Fédération française.
Et il y a eu des problèmes.
Donc,
vous avez raison de le dire.
Les supporters se sont retrouvés sous les échangeurs, notamment de l'A86, et c'est là qu'on a vu des scènes où ils se sont fait dépouiller par des jeunes qui sont venus des quartiers voisins. C'est là que ça a été assez terrible parce que il n'était pas prévu que ces supporters sans billets puissent être sur l'esplanade. Est-ce que ça, c'est normal?
Non, et par ailleurs, il y a eu un problème aussi de répartition des flux parce que les supporters madrilènes, par exemple, ils sont arrivés de l'autre côté, c'est-à-dire par la ligne 13 du métro.
Du métro parisien.
Les supporters de Liverpool sont arrivés par le RER, mais le RER, il y en avait un qui fonctionnait moins bien, le B. Ils sont arrivés au D. Le problème, c'est qu'au lieu, à ce moment-là de la sortie du RER D, de les orienter, comme ça a été fait plusieurs fois à l'Euro 2016, vers les points de contrôle, 12 points de contrôle au RER B, quasiment vides. On les a laissés s'agglutiner les uns les autres. Et c'est pas vrai que dans la file, tout le long de la 1 et sous l'échangeur de la 86, il n'y avait que des supporters sans billets. C'est mathématiquement impossible.
Et ce sera compliqué de déterminer les responsabilités des uns et des autres. On verra cela peut-être avec Fanny Lechevestrier avant la fin de ce journal de 13h. Merci à tous les deux. Merci Nathalie Yenetta, vous revenez quand vous voulez. Et c'était décidément un mauvais week-end pour les symboles de la France au Louvre. Une aventure de plus dans la longue histoire de la Joconde. Elle a été entartée hier. Un visiteur a lancé du gâteau à la crème sur la vitre qui protège Mona Lisa. Selon les premiers récits, il s'était approché en fauteuil roulant du tableau. Une enquête est ouverte pour tentative de dégradation d'un bien culturel. Un homme a été placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Alors, embargo sur le pétrole russe ou pas? Les chefs d'État et de gouvernement européens réunis à Bruxelles doivent se mettre d'accord, entre autres sujets de discussion, sur une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Embargo, oui, mais pas complètement. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, ce qui se dessine, Angélique, pour embarquer la Hongrie dans un accord, c'est un embargo sur presque tout le pétrole russe et en deux temps.
Oui, c'est donc ce compromis qui se dessine après une ultime réunion ce matin des 27 ambassadeurs, qui doit encore être validée par les dirigeants. Dans un premier temps, les Européens devraient s'engager à ne plus acheter à Moscou de pétrole et de produits pétroliers livrés par bateau. Cela représente un peu plus des deux tiers des importations. Le reste transite par oléoduc. Là aussi, cela se ferait en deux temps. Selon une source diplomatique, la Pologne et l'Allemagne vont s'engager à ne plus en acheter par cette voie terrestre d'ici la fin de l'année, ce qui représente encore 20% des importations. Il resterait donc 10% environ de pétrole que la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, les trois pays les plus enclavés achètent à Moscou et pour lequel les Européens vont se donner encore quelques semaines de négociations. Viktor Orban a fait monter les enchères ces derniers jours. Le président hongrois réclame des garanties financières et un embargo très décalé dans le temps pour adapter ses raffineries. Un compromis de dernière minute donc élaboré pour éviter que ce dossier ne parasite le sommet qui s'ouvre cet après-midi. Il faudra donc en voir le détail dans les prochaines semaines. Ce sixième paquet de sanctions qui était donc bloqué par ce dossier prévoit, on le rappelle également, de déswifter la principale banque russe, de sanctionner plusieurs canaux d'information accusés de diffuser de la propagande, et puis il comporte de nouvelles sanctions contre des oligarques et des entreprises.
Déswifter bientôt dans le Larousse, autrement dit sortir du système Swift, bien compris. Merci Angélique Boulle en direct de Bruxelles. Précisons que ce soir et demain, deux jours seront consacrés à cette question, mais pas seulement. La crise énergétique, la crise alimentaire et l'aide à l'Ukraine, il y a beaucoup de sujets, une fois de plus, sur la table de ce sommet européen. Quant à elle, elle est la plus haute responsable française à se rendre en Ukraine depuis le début de la guerre. Le gouvernement à Kiev juge à ce stade la France trop tiède dans les mots pour le soutenir et condamner le gouvernement russe. Catherine Colonna, la nouvelle chef du Quai d'Orsay, est donc à Kiev et dans ses environs aujourd'hui. Ce matin, Boutcha, près de la capitale, la ville symbole des crimes de guerre présumés des Russes. La dernière version de l'acte d'accusation, en quelque sorte, fait état de 419 civils tués et torturés à Boutcha, dont l'armée russe s'est retirée fin mars. On estime qu'un mort sur trois dans la région de Kiev était à Boutcha. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Thibault, vous avez avec Alexandra Bergel assisté ce matin à la visite de Catherine Colonna.
Oui, les pieds dans la boue, sous une pluie continue, la ministre a donc découvert Boutcha, son église Saint-André-l'Apôtre et ses charniers creusés autour.
Là, nous sommes sur le lieu qui était celui de la fosse. C'est quelque chose qui était nécessaire de commencer par Boutcha.
Car cette petite ville du nord-est de Kiev est le symbole, dit-elle, des atrocités attribuées aux Russes, même si dans un échange avec le maire Anatoli Fedorouk, Catherine Colonna préfère rester mesurée.
Ce sera les résultats de l'enquête qui est menée. L'équipe d'enquêteurs français spécialisés est venue à la demande de la procureure générale d'Ukraine. Donc c'est aux autorités ukrainiennes maintenant de se déterminer à partir des faits que notre équipe a contribué à établir. Il y a guère de doute, mais ce n'est pas à moi de qualifier les faits.
Et c'est cette prudence, Bruno, qui est ici reprochée à la France. Dans l'église, le pope orthodoxe Andriy Ralavine a présenté à la ministre 26 photos de victimes de Boutcha. L'horreur sur papier glacé pour appuyer une demande partagée par beaucoup d'Ukrainiens. Il faut passer de la parole aux actes et ne plus rien concéder aux Russes.
C'est triste, mais en Ukraine, on a bien compris que les négociations ne servent à rien. Si on n'arrête pas le mal, il reste impuni. Il y a eu l'invasion de la Crimée et le monde a fermé les yeux. On a peur qu'on nous demande d'accepter l'occupation et de concéder des territoires. histoire. C'est comme ça que dans un an ou deux, on perdra encore des terres et peut-être notre pays, voire notre peuple.
La peur d'un compromis donc, qui est cet après-midi au cœur des discussions diplomatiques. Catherine Colonna est actuellement avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Elle doit rencontrer tout à l'heure Volodymyr Zelensky.
Thibault Lefebvre en direct d'Ukraine avec Alexandra Bergel. Les combats en Ukraine pour conquérir ou défendre ce que les Russes n'ont pas encore pris du Donbass. Ces combats se déroulent maintenant dans la ville de Severodonetsk, l'une des dernières de la région qui ne maîtrise pas. La situation est très difficile, dit le gouverneur de la région. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz avait promis, peu après l'invasion de l'Ukraine, d'investir 100 milliards d'euros dans la défense du pays. Eh bien, hier soir, Nathalie Versieux, la majorité en Allemagne s'est mise d'accord avec l'opposition sur les modalités de financement de cette mesure qui est historique.
Le gouvernement de Olaf Scholz avait décidé, comme l'y oblige la Constitution, de retourner à l'orthodoxie budgétaire après les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Mais l'urgence sécuritaire pousse à de nouveaux déficits de 100 milliards d'euros cette fois pour moderniser une armée notoirement sous-équipée. Pour de telles sommes, Olaf Scholz avait besoin du soutien de l'opposition conservatrice et d'une majorité des deux tiers au Bundestag. Un accord a finalement été trouvé avec la CDU après des semaines de négociations. Concrètement, les 100 milliards d'euros de dépenses militaires seront donc versés dans un fonds spécial hors budget fédéral, un tour de passe-passe budgétaire qui permet aussi au pays de respecter son engagement envers l'OTAN d'investir 2% de son PIB dans la défense. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
À 13h30 avec nos invités, qui est Vladimir Poutine? J'attends vos questions sur ce thème au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. L'Europe discute des moyens à dégager pour aider l'Ukraine et sanctionner la Russie. Elle partage aussi l'inquiétude liée à la montée de l'inflation. Parmi les chiffres de la matinée, la hausse des prix en avril en Espagne, plus 8,7% en un an. En France, pour l'instant, l'inflation est plus basse que chez la plupart de nos voisins européens, autour de 5%. C'est notamment l'effet du bouclier énergie. Les prix du gaz et de l'énergie bloqués, pas plus de 4% de hausse. Y aura-t-il un rattrapage à un moment sur la facture, Delphine Simon?
Oui, dans sa délibération, la Commission de régulation de l'énergie prévoit bien un rattrapage des prix l'an prochain. Il s'agit de compenser les pertes des fournisseurs d'énergie qui achètent très cher l'électricité sur les marchés de gros et qui la revendent à moindre prix aux consommateurs, comme le demande le gouvernement. La facture pour les ménages grimperait de 8% environ en 2023. 8%, cela représente 150 euros de plus sur la facture moyenne d'une famille de 4 personnes qui se chauffent à l'électricité. Les gros fournisseurs d'énergie, EDF, Engie, récupéreront l'an prochain l'argent qu'ils puisent actuellement dans leur trésorerie. Les plus petits fournisseurs ont déjà reçu le 1er mai un premier versement de l'État. Un rattrapage des prix considérables dont s'émeuvent les associations de consommateurs. Elles ont d'ailleurs écrit au gouvernement ce mois-ci. Au gouvernement, on rappelle que la façon de compenser n'est pas tranchée. L'État pourrait y aller de sa poche, comme il le fait déjà sur le gaz, ou il pourrait baisser les taxes sur l'électricité comme cette année. Impossible à ce stade de se prononcer, dit-on. On ne sait pas quels seront les prix en février l'an prochain.
En Chine, les habitants de Shanghai vont-ils enfin voir une période très pénible se terminer? Selon l'agence Reuters, le confinement pourrait être levé mercredi dans la ville. En France, les mois de Covid laissent des traces dans les hôpitaux. Grande fatigue des soignants. 120 services d'urgence limitent leur activité ou s'y préparent, faute de personnel. Dans les hôpitaux de Paris précisément, quelle est la situation? Le directeur général de la PHP, Martin Hirsch, était ce matin l'invité de France Inter.
C'est vraiment une situation très sévère, très difficile. Tout le monde s'inquiète pour l'été et ce que disent les équipes dans les hôpitaux n'est pas surjoué. Deux bonnes années sous une pression aussi forte que celle qui a été liée aux différentes vagues de Covid ne laissent pas indemne, celles et ceux qui travaillent à l'hôpital.
Il y a combien de pourcents de lits fermés à la PHP?
15%. Nous, à la PHP, par rapport aux autres hôpitaux, notre problème est sur les infirmières. Vous avez beaucoup d'hôpitaux, plutôt en province, où le problème, c'est des manques de médecins. Nous, c'est des infirmières. On en a 1000 de moins qu'il y a un an à la même époque.
On avait prévu de créer 400 postes supplémentaires, on n'a pas pu les créer. Donc, il nous manque 1400 infirmières par rapport à ce qu'on aimerait avoir.
Martin Hirsch avec Léa Salamé et Nicolas Demorand. Ce sujet animera-t-il la campagne des législatives? La campagne officielle commence aujourd'hui. Les affiches sur les panneaux électoraux, les programmes dans les boîtes aux lettres, les spots de campagne. Parmi les candidats, 56% sont des hommes. Il y a 5 ans, parmi les députés, 39% des élus étaient des femmes. C'était un record. On verra s'il sera tenu. Et dans quel climat les candidats font-ils campagne? Élément de réponse avec ce reportage de Marius Delaunay, France Bleu Loire-Océan, dans la troisième circonscription de Loire-Atlantique, une partie de Nantes et ses environs, opération tractage au marché de Basse-Indre hier.
Il y a par exemple les déterminés comme Moured. Il ira voter au premier tour.
Vu ce qui se passe, la conjoncture, ce qu'ils nous font, ce qu'on subit, tout ça, là, je dis non, il faut y voter. On va essayer de quand même de changer les choses. Hein.
Du nouveau pour l'environnement, le pouvoir d'achat, des thèmes de campagne qui reviennent souvent dans les discussions avec les habitués du marché. En tout cas, pour Dominique, une retraitée nantaise, il y aura du monde de mobiliser pour les législatives.
Par rapport justement aux élections présidentielles, faut se bouger un peu plus. Donc, je pense que les gens pensent ça aussi.
Même discours de la part d'une candidate. Elle distribue ses tracts sur le marché de Basse-Indre et elle l'affirme, les passants sont plus réceptifs cette année. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont fait leur choix. Louis, par exemple, ira voter dans la 9e circonscription de Loire-Atlantique. Mais pour qui? Ça, bonne question.
C'est pas très intéressant, tous ces partis qui nous proposent. Bon, en plus, je les connais pas, alors.
Vous le connaissez, votre député?
Non, je connais pas du tout. Du tout. On sait plus qui est qui. Les gens ont la tête ailleurs.
Les candidats, eux, ont 2 semaines jusqu'au vendredi 10 juin pour faire campagne avant le premier tour.
Et le premier tour qui se tiendra dimanche de la semaine prochaine, le 12 juin. 294 migrants secourus au large de la Libye et de Malte vont pouvoir se poser sur la terre ferme à Pozzallo en Sicile. L'Italie autorise le navire d'SOS Méditerranée à y accoster. Voici l'un des points d'incertitude de la rentrée prochaine en France. Dans les collèges et lycées, les responsables d'établissements disposeront-ils des assistants d'éducation avec lesquels ils souhaitent travailler? Ce sont les surveillants qui encadrent les élèves. Pour l'instant, ils ont des contrats d'un an, renouvelables 5 fois. Au bout de la 6e année, c'est fini. Mais la loi votée en mars dernier contre le harcèlement scolaire prévoit qu'ils puissent être titularisés après 6 ans de contrat, car ce sont souvent eux qui repèrent les situations de harcèlement. Mais les décrets d'application ne sont toujours pas publiés, d'où l'incertitude de cette fin d'année, Sonia Princey.
C'est en ce moment que les collèges et lycées doivent prolonger ou recruter leurs assistants d'éducation pour la rentrée. Emmanuelle, surveillante depuis 6 ans dans un collège près d'Annecy, est dans l'incertitude totale puisque la loi qui lui permettrait d'obtenir un CDI n'est toujours pas appliquée.
Dans mon établissement, on me dit qu'on aimerait me garder, mais voilà, tout va dépendre de ce fameux décret. Nous, on connaît les élèves, on connaît le fonctionnement du collège, on connaît les professeurs, et puis on va peut-être se retrouver le bec dans l'eau à la fin de l'année, alors que voilà, les élèves me demandent en permanence « Allez, tu vas rester », je ne peux pas leur répondre non plus. Puis à 45 ans, ne pas savoir de quoi l'avenir est fait, c'est très très pesant. Je suis mère de famille, j'aime mon métier, enfin je comprends pas.
Emmanuel devra s'inscrire à Pôle emploi si le décret n'est pas publié à temps, comme beaucoup de ses collègues, qui souvent ont des enfants. La moyenne d'âge des assistants d'éducation est de 30 ans, fait remarquer Laurence Hopp, déléguée nationale des personnels de vie scolaire au syndicat SEUNSA.
Certaines personnes qui sont recrutées comme assistants d'éducation sont des personnels qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience, qui ont envie d'en faire un métier, ce qui n'était pas prévu au départ, puisque normalement c'était une profession, on va dire, qui s'adressait aux étudiants. Le profil a changé, on n'a plus tant d'étudiants que ça. Enfin, aujourd'hui, c'est 30% à peu près de la population des assistants d'éducation. Tout le reste, c'est plus des étudiants, donc c'est des gens qui aimeraient pouvoir continuer.
Et les établissements ont tout intérêt à les garder pour avoir des équipes plus stables et donc des élèves mieux encadrés.
Sur franceinter.fr, vous trouverez d'autres témoignages sur ce sujet. 300 clients ont déposé plainte depuis la fin mars après avoir reçu une piqûre lors d'une soirée en boîte de nuit ou établissement équivalent. Ce sont les derniers chiffres récoltés par France Inter. 150 plaintes supplémentaires en un mois. Le contenu des seringues, les motivations et le profil des personnes malveillantes qui procèdent à ces piqûres restent un mystère. Cette information de dernière minute, on vous a parlé à plusieurs reprises de cet orque qui était bloqué dans la Seine depuis quelques jours. Eh bien, selon l'association Sea Shepherd, l'animal est mort. Nous avons retrouvé le cadavre de l'orque, annonce l'association. L'animal devait être euthanasié dans les heures ou les jours à venir. 30 choses à savoir sur Arte qui fête ses 30 ans ce 30 mai. Voilà ce que vous propose franceinter.fr. Arte, la chaîne de l'Europe et de la culture, parité entre France et Allemagne, siège à Strasbourg. Arte, ses émissions renommées, du dessous des cartes à Trax sur la contre-culture, les séries phares Borgen en thérapie. Ça fait un moment qu'Arte n'a plus l'image de ce canal à vieux doc en noir et blanc sur la Seconde Guerre mondiale. La part d'audience est d'un peu moins de 3%. Il y a un succès sur le numérique. La chaîne a misé tôt sur ses canaux de diffusion. Elle a été la première en France à proposer le replay, pouvoir revoir les programmes après leur diffusion. Voilà 30 ans brossés rapidement. Bonjour Alexandra Hakoun.
Bonjour Bruno.
La chaîne est désormais plus que bien installée dans le paysage. Comment grandir encore?
Eh bien justement, en poursuivant son développement sur le numérique, où Arte a toujours su innover, comme avec le replay, vous l'avez dit, lancé dès 2017, c'était la première chaîne à le proposer. Surtout très tôt, Arte a su aller chercher sur le digital l'audience jeune qui lui manquait sur le linéaire. Aujourd'hui, sa plateforme Arte.tv cartonne, 68% d'augmentation ces deux dernières années. C'est même 100% de progression si on prend les 15-34 ans, avec des chiffres qui donnent le tournis, comme les 54 millions de visionnages pour la première série de saison de la série En Thérapie. Face au Netflix, Amazon et autres géants du streaming venus de l'autre côté de l'Atlantique, Arte veut être une alternative européenne. Beaucoup de ses programmes sont déjà proposés dans 6 langues différentes. Elle pourrait en ajouter d'autres. Et avec la guerre en Ukraine, la chaîne a plus que jamais une carte à jouer. Elle le sait dans le rapprochement culturel des peuples européens. Mais de toutes ses ambitions, eh bien, Arte en aura-t-elle les moyens? Comme le reste de l'audiovisuel public français, elle s'inquiète de la suppression annoncée dans l'hexagone de la redevance qui représente tout de même 50% de ses revenus.
Et franceinter.fr pour d'autres informations sur Arte sous la plume de Julien Baldacchino. Vous apprendrez notamment que le principe d'une chaîne culturelle a fait l'objet d'une mésentente au départ entre France et Allemagne. La culture en France, c'est la création, l'art, le patrimoine. En Allemagne, Kultur, c'est société, histoire et population. On entendra tout à l'heure Alex Vizorek avec Frédéric Pommier. Il présente ce soir, les Molières, qui reviennent à l'écran après 2 ans en pointillé, comme beaucoup de cérémonies publiques, comme Cannes avec le cinéma, la grande fête du théâtre se déroule alors que les spectateurs ne sont pas encore revenus dans les salles. Fréquentation pour les théâtres en baisse de 44% au premier trimestre par rapport à l'avant-crise, selon l'Association pour le soutien du théâtre privé, citée ce matin dans Les Échos. Caroline Verdu est la directrice du théâtre de la Pépinière à Paris. Elle a produit Comme il vous plaira de Shakespeare, nommé dans 5 catégories ce soir.
Entre les différents directeurs de théâtre, producteurs, comédiens, etc., tous ceux qui sont nommés ce soir, depuis 8h du matin, on n'arrête pas de s'envoyer des textos en se disant notre fameux merde pour ce soir, mais également, le plus important, c'est d'être tous ensemble là, c'est que ce soit joyeux, c'est de faire la fête, voilà.
Y a-t-il un effet accélérateur pour un spectacle lorsqu'il est récompensé aux Molières?
Être récompensé aux Molières, c'est le dernier aboutissement de la saison. Je pense que si on regarde par le passé, c'est quand même assez significatif de ce que pense le public.
Quel est le niveau de la fréquentation? Est-ce que vous avez retrouvé le niveau d'avant la pandémie?
Ah non, alors ça c'est sûr, on n'est pas aux affluences de 2019. On est dans une période compliquée, incertaine. Il nous semble que les gens sont très influencés par tous les événements extérieurs. Si je prends l'exemple du spectacle qu'on a en ce moment, on n'est pas plein. Voilà, alors sur un spectacle qui a l'accueil que nous avons, on devrait être plein.
Propos recueillis par Stéphane Capron, début de la cérémonie des Molières à 21h sur France 3 cette fois-ci. 20 statuettes seront décernées, théâtre public et privé réunis et un Molière d'honneur sera remis à Jacques Weber. Et puis il y a une polémique en marge de cette cérémonie. Le collectif MeToo Théâtre avait été invité ce soir pour alerter sur les violences sexuelles au théâtre, mais le texte proposé ne sera pas lu. Il ne correspondait pas à l'accord conclu entre les deux parties selon l'association des Molières. Le collectif parle de censure et appelle à un rassemblement ce soir à 19h30 aux Folies Bergères. La météo dans un instant.
Vivez les élections législatives avec France Inter.
Retrouvez les émissions pour la campagne officielle enregistrées par les candidats tous les jours sur France Inter à 14h40, 21h03 et 23h10.
Allô Alain, c'est Géraldine. Je suis pas très à l'aise. Philippe vient de partir en mer tout seul, sans moi, et vous savez, avec ses oreilles.
Il a bien pris ses 2 paires d'appareils auditifs.
Ah oui, je les ai rangés moi-même.
Et il entend très bien avec.
Oui, bien sûr.
Bon, alors tout va bien, il peut être tranquille, et nous aussi.
Avec Chin Audio, la sécurité pour 1 euro de plus, ça n'a vraiment pas de prix.
Chin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus, jusqu'au 31 août 2022. Voir conditions dans nos magasins à Alain Flelo acousticien. Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste.
Voyons le temps de ce jour.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Après ce long week-end de l'Ascension, une journée agréable.
Oui, ensoleillée, alors avec quelques passages nuageux tout de même sur les régions allant de la Bretagne jusqu'aux frontières du Nord. Une averse possible près de la Manche. En allant vers le sud, là, le soleil est parfois voilé. Sur les Alpes du Sud, la montagne Corse, on n'est pas à l'abri de quelques averses. Quelques-unes aussi sur le Languedoc-Roussillon en début d'après-midi. Des averses un peu plus nombreuses hein, sur les Pyrénées, parfois avec de l'orage. Ce soir, sur le sud-ouest, le ciel va s'assombrir un petit peu et quelques ondées seront possibles. Les températures, elles gagnent quelques degrés, alors 15 à 18 degrés près de la Manche, 19 à 21 sur les autres régions du Nord, 21 à 26 au Sud, jusqu'à 28 en Méditerranée. La hausse des températures va se poursuivre progressivement jusqu'à vendredi. On aura une moyenne de 27 degrés au Nord vendredi et de 30 au Sud. Et puis l'ambiance sera lourde et orageuse.
Merci Élodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Par la guerre qu'il a lancée le 24 février dernier, cet homme a complètement rebattu les cartes du monde.
Tout ce que notre histoire a connu de meilleur, nous le transmettrons à nos descendants.
Qui est Vladimir Poutine? Beaucoup de choses ont été dites depuis 3 mois et la sidération du discours du 24 février qui a lancé la guerre. Mais il reste beaucoup, beaucoup de choses à dire. Poutine est un tsar soviétique. C'est la thèse du podcast Fouillé et passionnant que nous propose Philippe Collin, qu'il propose aux auditeurs de France Inter. Bonjour Philippe.
Bonjour Bruno.
Voix connue de France Inter après Pétain, Molière, Napoléon. C'est donc le destin de Poutine que vous nous contez en podcast. Tsar soviétique, voilà qui est contradictoire dans les termes.
Oui, mais ces deux mots sont reliés par une notion impériale. Le tsarisme, c'est un empire russe et l'URSS, c'était un empire soviétique. Et c'est une dimension extrêmement importante chez Poutine. Ce qui l'anime, c'est la dimension impériale. Avec pour chacun des deux mots, des spécificités. Il y a un côté religieux, orthodoxe chez les tsaristes, qui anime aussi la volonté de Vladimir Poutine, un côté presque réactionnaire, et il y a un côté soviétique chez Poutine, pas un côté marxiste, ouais. Un côté soviétique, c'est-à-dire le patriotisme soviétique, ceux qui ont gagné contre les nazis, vous voyez. Et ces deux éléments sont extrêmement constitutifs de Vladimir Poutine quand on l'observe, quand on le sculpte, et on s'aperçoit justement, Bruno, que on a pu penser qu'il y avait deux Poutines, Poutine d'avant 2010 et puis celui depuis 10 ans. En fait, on s'aperçoit que le Poutine qui est là devant nous agit de cette sorte depuis très longtemps, depuis quasiment le début en vérité.
Et je salue également Isabelle Mandreau. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou, vous participez au podcast de Philippe Collin et vous êtes aussi l'autrice de Poutine, la stratégie du désordre, coécrit avec Julien Théron chez Talendier. Philippe nous parlait de 2010, je voudrais remonter un peu plus loin, commencer au fond, au milieu de l'histoire, à l'aube des années 2000. Vladimir Poutine prend le pouvoir en Russie et parmi ses premières décisions, il y a celle-ci, le retour d'un hymne bien connu, extrait du podcast Reportage de l'époque, et puis je vous demanderai votre commentaire, Isabelle Mandreau.
Composé lors de la Deuxième Guerre mondiale, cet hymne a été celui de l'URSS pendant 50 ans. Il glorifie Staline et la Russie communiste. Cette mélodie, les Russes vont donc l'entendre à nouveau, mais avec d'autres paroles. Vladimir Poutine ne voulait plus de l'hymne choisi en 93 par Boris Yeltsin, un chant patriotique du 19e. Le nouveau président russe rêve de redonner à la Russie sa grandeur d'antan.
Voilà, Poutine, quand il prend le pouvoir, rend à l'armée rouge son drapeau rouge. Il rend aux Russes l'hymne soviétique en gommant les paroles qui font référence au stalinisme. Il rétablit même des symboles tsaristes. Et donc, en revanche, il gomme toutes les horreurs de la période soviétique. On a là son rapport à l'histoire, Isabelle Mandreau.
Oui, c'est un rapport à l'histoire, évidemment, qui est très important pour lui, puisque ça lui permet d'animer ses projets. Et donc, il a mené depuis de longues années maintenant un révisionnisme historique qui s'est accéléré nettement depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Mais en redonnant l'hymne soviétique, évidemment, il réveille aussi, il réveille les consciences sur la Grande Guerre patriotique. Mais c'est pas, il a utilisé tous les symboles, comme ça, il en a utilisé plusieurs. Il a aussi refait de la date du 9 mai donc de la grande vie, de la victoire soviétique sur le régime nazi, il l'a remis aussi de façon avec beaucoup de force sur le devant de la scène. Donc il a utilisé beaucoup de symboles, en fait, encore une fois, au service de ses projets.
Et le gouvernement a l'émotion qui est très nette à ce moment-là. Est-ce que Philippe Collin, quand il arrive là au pouvoir à l'aube des années 2000, les Occidentaux comprennent le personnage à qui ils ont affaire?
Je ne crois pas qu'ils le comprennent, parce que là où il est aussi soviétique, Poutine, c'est qu'il est très sensible à ce que les bolcheviks appelaient la corrélation des forces. C'est-à-dire, on jauge la situation. Ouais. Il sait qu'il est faible. Il sait que la Russie est faible.
À ce moment-là,
donc, il a besoin d'avoir des négociations, de tenir un double langage, un triple langage. Il ne parle pas de la même manière aux Chinois qu'aux Américains, qu'aux Européens. Donc, il est en train de jauger la situation. Il a besoin de se renforcer. Donc, effectivement, il avance un peu masqué. Mmh. Et ensuite, il y aura la force retrouvée, où là, il va commencer à poser des ultimatums, etc. Donc, au départ, je pense qu'il dupe ses interlocuteurs.
Le jeune Poutine... Qui est ce Vladimir Poutine qui est né il y a bientôt 70 ans à Leningrad, Saint-Pétersbourg, aujourd'hui? Qui est cet homme-là?
Eh bien, il est né en 1952 de parents qui ont beaucoup souffert du siège de Leningrad. Il faut rappeler que c'est 900 000 morts en 3 ans. C'est une ville... Alors, Poutine n'a pas vécu le siège de Leningrad, évidemment, mais il vit dans une ville en ruine, entourée de fantômes. Et ce n'est pas rien, parce que son père était un saboteur au sein du NKVD, donc déjà un espion russe quelque part, et qui a notamment survécu à une opération suicide contre les nazis. Oui. Derrière les... En fait, ça crée une mythologie aussi, évidemment, chez Vladimir Poutine. Et notons une autre chose, c'est qu'à la mort de Staline en 1953, on va prendre Beria, donc le bras droit de Staline, va promulguer des grandes lois d'amnistie. Et on va avoir une hausse de la criminalité, notamment à Saint-Pétersbourg. Et c'est important parce que Poutine va vivre adolescent, enfant, au milieu de bandes et au milieu de criminels. Ce n'est pas rien parce que ça le forme. Mmh. Il est un enfant que les parents sont âgés, pardon. Il a perdu deux frères, donc il est tout seul. Il vit dans des immeubles, dans une cour d'immeuble où Isabelle Mandro est allée d'ailleurs. Et il va donc avoir un contact avec la notion de bande. Ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui encore, il est entouré d'une bande de Saint-Pétersbourg.
Et il y a, ça revient à plusieurs reprises dans le podcast Isabelle Mandro, il a cette mentalité de chef de bande, au fond. Poutine, l'ancienne petite frappe, si j'ose dire, qui régnait sur son quartier, qui était maigrelé au départ, qui a fait de la musculation pour régner sur son quartier, a cette mentalité de chef de bande aujourd'hui encore.
Je ne sais pas s'il a vraiment eu toujours cette mentalité de chef de bande. En fait, je pense qu'il a eu à survivre dans un contexte qui était difficile en Union soviétique, où effectivement on s'impose plus par la force que par autre chose. Mais je ne sais pas s'il a toujours eu. Il n'a pas montré des qualités de leader durant toute sa carrière jusqu'à ce qu'il parvienne au pouvoir. Et là évidemment, encore une fois, je rappelle que beaucoup s'interrogeaient sur qui est Vladimir Poutine quand il était au pouvoir, parce que personne ne le connaissait. C'est vraiment... Donc, ces qualités de leader, en fait, il les a montrées par la suite et par la force, surtout.
Qui il est? Alors, il y a un élément fort, c'est que c'est un ancien espion. Et ça l'a définitivement, si j'ose dire, formé, ce côté espion, Isabelle Mandro.
Ah, complètement. Ça, c'est une formation qui l'a considérablement marqué, qui vient de loin, encore une fois, parce que dans sa jeunesse, il était très amateur. Il aimait beaucoup les histoires d'espionnage et de défense de la patrie à travers les réseaux d'espions, etc. Mmh. Donc pour lui, c'est un monde extrêmement important. Il l'a dit, il l'a redit. Il dit que les espions sont des hommes et des femmes pas tout à fait comme les autres, et qu'ils ont un intérêt supérieur. Donc il les a toujours valorisés. Il les a même accueillis quand ils sont récemment encore attrapés aux États-Unis, etc. C'est lui-même qui va les accueillir à leur descente d'avion quand ils sont renvoyés en Russie. Donc vraiment, pour lui, c'est un univers extrêmement important. Et quand il a dirigé le FSB, c'est-à-dire en 1999, avant d'être nommé Premier ministre, puis d'accéder à la fonction suprême de l'État, il a cette phrase qui est absolument incroyable, où en disant au revoir à ses pairs au sein du FSB, il dit « Voilà, vous nous aviez confié une mission d'infiltration jusqu'au plus haut sommet de l'État et nous y sommes parvenus. » Ce qui paraissait pour une boutade à l'époque, en fait, ne l'était certainement peut-être pas.
FSB qui a succédé au KGB. On prend les auditeurs du 13-14 dans un instant. Je voudrais passer un autre extrait de ce podcast. La phrase clé pour le KGB, c'est quoi, Philippe Collin? Tête froide,
cœur chaud, et main propre. Exactement.
Alors, Isabelle Mandro parlait de 99. Justement, ça se passe, je crois, en 99, cet extrait. Parmi les techniques des services secrets, il y a celle du compromat. compromettre une personne en utilisant des éléments intimes. 99, Poutine est le patron des services secrets russes. Il y a un procureur, le procureur Skouratov, qu'embarrasse Boris Yeltsin, alors président, en enquêtant sur la corruption de son entourage. Eh ben, Poutine rend service à son président. Non seulement il filme le procureur avec des prostituées, mais il balance ça à la télévision.
Nous souhaitons vous avertir que les scènes qui vont suivre ne doivent pas être vues par des mineurs. Vous aurez du mal à élever vos enfants dans un esprit patriotique. Une fois qu'ils auront vu dans cette posture, le procureur de la Fédération de Russie.
Vous avez pris une douche ?
Oui.
Alors venez.
J'ai des pensées coquines, ça tombe bien.
Incroyable scène.
Incroyable scène, et on a tout Poutine déjà voilà. Là. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que le monsieur qu'on entend au départ, c'est un présentateur de la télévision russe, hein, qui est extrêmement propre sur lui, et on va donc montrer ces images à la télévision russe. Skouratov va évidemment être démis de ses fonctions, et ça va sauver Boris Yeltsin. Mmh. La récompense, c'est que Poutine va donc gravir encore un échelon supplémentaire. Mais je trouve que dans ce petit exemple, on a toute la psychologie de l'ancien espion du KGB au plus haut sommet de l'État.
Et la brutalité.
Absolument.
Des méthodes.
Oui.
Question de Marc au standard au 01 45 24 7000. Bonjour Marc.
Oui, bonjour, merci d'avoir pris ma question.
Je vous en prie, nous vous écoutons.
Pour vos invités, Poutine aurait-il envahi l'Ukraine si l'OTAN, comme le lui reprochent certains, ne l'avait pas titillé un petit peu depuis quelques années, ou en d'autres termes, est-ce qu'on a vraiment affaire à un tyran absolu et sanguinaire qui se fiche totalement de la politique internationale ?
Isabelle Mandreau, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question qui est une des questions clés depuis le déclenchement de la guerre,
hein ? Il est certain que les Occidentaux ont mis beaucoup de temps à réaliser et à prendre conscience en fait de la menace que représente Vladimir Poutine pour la sécurité dans le monde et particulièrement en Europe. Il est certain que en fait en 2014 déjà, si on écoute son discours lors de l'annexion de la Crimée, il parle de l'Ukraine comme d'un pays nazi. Donc tout y était déjà. Donc effectivement, est-ce que l'OTAN à ce moment-là, l'OTAN a souvent servi de justification aux propres avancées de Vladimir Poutine, puisqu'il a toujours dit, il a toujours dénoncé que l'OTAN avançait, qu'elle encerclait, etc. En fait, c'est le contraire de ce qui produit, de ce qui se produit aujourd'hui, puisque maintenant il y a deux nouveaux États que sont la Finlande et la Suède qui vont adhérer à l'OTAN alors qu'elles n'y étaient pas. Donc, c'est, en fait, l'OTAN a été surtout un instrument pour l'agressivité de Vladimir Poutine.
Un prétexte. Et bien, je me permets de vous relancer parce qu'il y a plusieurs questions sur ce thème au standard au fond. Est-ce que l'OTAN n'a pas compris la psychologie de Poutine ? Est-ce que les responsables occidentaux à un moment ou un autre auraient dû le traiter différemment pour tenir compte au fond du complexe d'humiliation, du complexe de se sentir complètement assiégé ? Est-ce qu'il y a eu un raté des diplomates occidentaux à ce moment-là ?
Il y a peut-être eu effectivement un peu de légèreté au début des années 90 quand l'Union soviétique s'est effondrée, puisque ça a été une période difficile à vivre pour les Russes, mais encore une fois, dès le début, Vladimir Poutine a montré ce dont il était capable, encore une fois, en rasant Grozny, la capitale tchétchène, en remettant au pas les oligarques, même s'il leur a permis ensuite de s'enrichir, mais en tout cas en leur interdisant de s'avancer en politique, puis en détruisant toute forme d'opposition. Donc il a montré très rapidement ce dont il était capable. En revanche, les Occidentaux ont mis beaucoup de temps à comprendre, ou en tout cas à admettre qu'ils avaient face à eux une menace. Et cet OTAN, en fait, qui est resté même, j'allais dire, l'arme au pied, mais l'expression est mal choisie, mais c'est justement, ni la Géorgie, ni l'Ukraine ne pouvaient y rentrer, puisqu'on ne voulait pas fâcher Vladimir Poutine. Donc, encore une fois, l'OTAN est le principal instrument pour justifier l'agressivité de Vladimir Poutine.
Allez, encore une question au standard, celle d'Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Et là aussi, il y a beaucoup de questions comme la vôtre. Allez-y.
Alors, comment on peut arrêter un idéologue ? Parce qu'il faut, alors, j'aime pas le mot nazi ou dictateur. Comment il faut arrêter Poutine ? Parce que ne pas arrêter Poutine, c'est laisser la porte ouverte aussi aux Chinois d'envahir Taïwan. C'est aussi la Corée du Nord de bombarder le Japon. C'est aussi la junte malienne. Il y a un moment, il va falloir que les démocraties sortent les dons, quoi.
Alors, Philippe Collin, je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, j'en doute précisément. En revanche, dans le dernier épisode du podcast sur le thème l'enchaînement, C'est vraiment une, comment dire, une guerre de civilisation que mène Poutine.
C'est ça qui est très important, Bruno. Moi, j'ai pas la réponse de savoir comment arrêter Poutine, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes
face à... Sinon, soyez gentil, donnez-la.
Voilà, exactement, mais je ne l'ai pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes face à une personne qui mène, en effet, une guerre de civilisation, et que le danger dans ce type de guerre, c'est qu'il y a un vaincu et un vainqueur. Quand on fait une guerre de conquête territoriale, par exemple, on gagne le terrain, on fait un traité de paix, et puis voilà. Là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on va dans un jusqu'au boutisme. Poutine veut gagner cette guerre idéologique.
Et conservatrice profondément,
conservatrice,
vous le décrivez
Russie
dans le cinquième épisode.
Russie éternelle, c'est-à-dire que face à l'Occident décadent, nous avons ici une personne qui estime que les valeurs russes sont supérieures. Et donc dans cette guerre totale, qui d'ailleurs fait un peu écho à la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il est hanté par ça. Il a perdu le goût du présent, Poutine. Il vit il y a très longtemps, en vérité. Et donc le danger est là, en effet.
Poutine, le tsar soviétique, en podcast sur franceinter.fr et peut-être à l'antenne cet été.
Absolument, première semaine de juillet.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude
du
podcast. Merci à vous et merci beaucoup Isabelle Mandreau. Je rappelle les références de votre livre Poutine, la stratégie du désordre, c'est chez Talendier. 13h45.
France Inter, le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Le vif de l'histoire, la reine d'Angleterre dans le vif aujourd'hui.
Oui, c'était son avènement il y a 70 ans. Éveillait le vieux lion.
Churchill, vous nous raconterez les débuts de ce règne avec votre ami Churchill. Avant cela, il y aura le feuilleton Les auteurs en lice pour le prix du livre Inter avec Eva Bétan. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
La 33e cérémonie des Molières aura lieu ce soir aux Folies Bergères. Elle sera retransmise en direct sur France 3. Et pour la deuxième fois, c'est l'ami Alex Vizorek qui va présenter la soirée. Et il est à votre micro, le temps d'une chanson.
Et il a choisi de me parler d'un artiste qui, à sa demande, va participer à la cérémonie ce soir. Un garçon qu'il écoute depuis la sortie de son tout premier album, il y a 20 ans. L'album s'appelait Vincent Delerme.
Moi, je suis un grand fan de chansons françaises à texte. Je trouve ça toujours génial quand il y a une petite histoire. Parce qu'au fond, c'est ça la chanson, c'est vous raconter une histoire, vous faire une fiction dans votre tête pendant 3 minutes et demie, 4 minutes. Et il y arrive hyper bien.
Vous avez l'impression que Vincent Delerme, il raconte un peu votre vie dans chacune de ses chansons?
Oui, un petit peu. C'est-à-dire que... comme tous les gens qui, il y a 20 ans, écoutaient Vincent Delerme, on avait l'impression qu'il parlait de nous, en fait. Du même Paris que nous, des mêmes relations sentimentales que peuvent avoir les gens qui ne sont pas des séducteurs instinctifs. Il tombait amoureux, il avait des échecs potentiels, il allait au zoo avec quelqu'un avec qui ça n'avait pas fonctionné, et il lui disait de manière touchante. Donc voilà, ça me parlait vraiment beaucoup. En fait... peut-être immodestement, je me dis, si je racontais ma vie en chanson, j'aimerais avoir le talent de la raconter comme lui.
Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais ses vacances il y a 2 ans sur la plage de Bénodet. Pendant la troisième scène, je me suis un peu rendu compte, j'avais pas bien suivi les répliques du vicomte. Pendant la quatrième, elle s'est penchée vers moi, elle a failli me dire un truc, et puis finalement pas. On est parti avant la fin du monologue shakespearien, parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. Lapin au dénouement shakespearien.
Cette chanson, Frédéric, c'est le monologue shakespearien.
L'une des premières chansons enregistrées par Vincent Delerme, chanson sur le théâtre. Et c'est pour cette raison qu'Alex Vizorek l'a choisi.
Il se perd dans un théâtre avignonnais où il va voir un Shakespeare.
Richard III.
Richard III en l'occurrence. Et puis il se rend compte qu'il y a une très jolie fille assise à côté de lui et qui s'ennuie un petit peu aussi de la mise en scène un petit peu étrange. Pas de décor, pas de costume, c'était une putain d'idée. Comme il dit si bien. Et c'est le début d'une histoire d'amour, mais c'est très joli et c'est drôle. Moi, ce que j'aime bien dans Delerme, c'est que de temps en temps, on rigole parce que au-delà de la poésie et de la narration qui est hyper tenue, il y a de temps en temps un petit mot, un petit verbe, un petit name dropping bien choisi, et ça nous fait sourire.
Dans les rues d'Avignon, il y a des lumières la nuit, on boit des demi-citrons, et on se photographie. À la table d'à côté, ils ont vu un Beckett. Ils disent c'est pas mal joué, mais faut aimer Beckett. Dans les rues d'Avignon, y a des proches balèzes. Demain à 23h, je vais voir une pièce polonaise. Dans les rues d'Avignon.
Celle-ci, en plus, elle parle d'Avignon. Un endroit où je me suis un peu révélé dans ce métier, parce que c'est chouette, les premiers Avignons, on démarre, on supplie les gens de venir nous voir, et on a les premières réussites, le premier directeur de théâtre qui vous dit, en fait, c'est pas mal, je vais vous prendre l'année prochaine. Et donc, ça rappelle tellement de trucs, et je trouve ça tellement beau, c'est-à-dire que n'importe qui peut investir ses économies de l'année et se dire, je me loue un théâtre à Avignon et je vais faire le métier comme un pro.
Donc, Alex Vizorek choisit sur France Inter une chanson de Vincent Dolerme qui évoque une pièce de théâtre à Avignon. Ça coche toutes les cases.
Ouais, je pense qu'on est bon là. Télérama va mettre 3T.
Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais mes vacances dans 2 ans sur la plage de Pénaudet.
Vincent Delerme, le monologue shakespearien, c'était donc Frédéric, le choix d'Alex Vizorek.
Qui animera ce soir la cérémonie des Molières. D'ailleurs, il est aussi nommé pour le Molière de l'humour, mais oui, grâce à son spectacle Ad Vitam, qu'il jouera notamment mercredi à Marseille, le 23 juin à Lyon, et du 18 novembre au 30 décembre au Théâtre Édouard VII à Paris.
C'est dimanche que les jurés décideront de qui a le prix du livre Inter. 48e année de ce prix qui nous est cher. 10 auteurs en lice, nous les entendrons tous au micro d'Eva Bétan. C'est notre feuilleton depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, le livre Grande Couronne, édité chez Criston Bourgois, c'est le premier roman de Salomé Kinner. L'histoire dure d'une jeune fille qui vit en grande banlieue parisienne. Eva Bétan, vous nous dites quelques mots de cette histoire, puis entretien avec Salomé Kinner.
Celle qui raconte, dis-je, on imagine que cela remonte à peu de temps car elle a encore le phrasé de l'adolescence et elle est capable de restituer avec précision les faits et les sensations. Nous ne connaissons pas son prénom, mais très bien son intimité. Elle est en 4e, elle vit en grande couronne, elle rêve de Paris et d'être hôtesse de l'air, elle est une bonne élève, sa mère lui donne 5 francs, c'était avant l'an 2000, hein, 5 francs quand elle a un tableau d'honneur, elle en gagne 50 par passe le mercredi près du lavoir. Avec cet argent, elle achètera des Nike. Vous nous amenez avec elle, il n'y a pas de surplomb, c'est avec humour, il n'y a pas d'excuses sociologiques, mais le plus étonnant, c'est qu'on se dit que ça va aller pour elle. Qu'est-ce que vous faites là? C'est un premier roman? Un roman d'apprentissage? C'est quoi cette fille? Une fille maligne qui a trouvé un truc?
Je crois pas que ce soit un truc comme un autre, parce que je voulais pas du tout être dans la banalisation de ce qu'elle fait. Ce qui est sûr, c'est que la société banalise et qu'aujourd'hui, une jolie paire de baskets, un joli téléphone, ça a plus de valeur qu'une virginité buccale, par exemple. Je rappelle que c'est un réseau de prostitution sans pénétration. Une petite passe, si ça lui donne accès à la bonne paire de baskets et donc aux cercles les plus désirables de sa cour d'école, finalement, est-ce que c'est un prix si cher payé?
Alors, je vais lire un extrait. Le temps d'étudier la question, Rico s'est égaré et ma portière était coincée par un tronc d'arbre. J'ai dit, c'est pour quoi faire, les trucs derrière? Il s'est retourné pour voir à quoi je faisais référence et il a dit, c'est pour ma chienne. J'ai demandé, la batte aussi? Et là, il a dit, ferme ta gueule. Il a plu des couteaux sur mon ventre. J'ai fixé le point d'eau pour retenir mes larmes. T'as peur ou quoi? Il m'a donné une chiquenaude. J'ai gardé les yeux sur l'étang. Oui, j'ai peur. Il a pris mon menton dans sa main pour attirer mon visage vers lui. Il connaissait la peur. Elle ne l'effrayait plus. Il m'a secoué la poire en ricanant. Détends-toi. Je vais pas te manger, c'est toi qui vas me manger d'ailleurs. Alors voilà, elle a peut-être eu peur, mais elle y va, elle le fait.
L'histoire, elle se passe en 1999, donc 98, c'est l'affaire Monica Lewinsky. 2001, c'est Loana qui accède à la célébrité en étant nue dans une piscine. Donc on était dans un énorme creux féministe entre les années 80 et les années 2000, où l'idée d'une féminité réussie, c'était l'apparence, c'était une hypersexualisation. Donc il y a eu une banalisation de ces choses-là. Et à partir du moment où il y a une banalisation et où être jolie est plus important qu'être intelligente, il y a effectivement une facilité avec laquelle on bascule dans ces choses-là. Et je crois que le livre, c'était aussi une manière de dire, voilà, pourquoi est-ce que c'est aussi facile de s'engager là-dedans? C'est parce qu'on a placé des valeurs cardinales importantes bien au-delà du respect de son corps, de son intégrité physique.
Alors il y a la manière dont vous l'écrivez qui est très importante, c'est-à-dire que vous l'écrivez à la fois comme si elle avait 14, 15, 16 ans, et en même temps vous ne singez pas l'enfance.
Ce qui était très important pour moi, c'était d'écrire un livre sans commentaire, parce que j'en reviens à cette question de la sauvagerie. Je voulais retrouver l'état d'adolescence. Je voulais être dans la tête de cette adolescente où tout va très vite, où elle met au même niveau, où le sexe d'un homme ressemble à un ravioli cru, et quand elle voit une larme sur la joue de sa mère, elle a l'impression qu'elle va se défenestrer. Et donc je voulais retrouver ce chaos en fait mental, donc de la faire parler elle. Elle réfléchit pas à quoi. Elle est dans l'action, elle regarde, elle commente, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Et je voulais un peu cet effet brut. Et on me dit parfois c'est trash. Moi, je trouve pas que c'est trash. Je trouve que c'est cru. Et je trouve que la vie est profondément crue, violente. Et je suis toujours un peu surprise quand on me dit ça, parce que pour moi, c'est juste un reflet de la vie même.
Salomé Kiner avec Eva Bétan. Les entretiens sont à retrouver sur franceinter.fr et le feuilleton est réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jeudi, les Britanniques entament 5 jours de festivités. Jubilé d'Elisabeth II, 70 ans de règne. Ça se passe au printemps pour maximiser les chances d'avoir du beau temps. Arrêtez de casser votre fauteuil, Jean Lebrun.
C'est pas le fauteuil, c'est la grille du chauffage.
Ah, très bien. Si la date exacte avait été respectée, ça serait passé en hiver. Car, Jean, c'est en février 1952, que la très jeune Elisabeth, 25 ans, devient reine. Alors qu'elle était à sa naissance troisième dans l'ordre de succession au trône. Vous revenez sur ces premier moment de règne et le rôle du Premier ministre de l'époque, cet homme que vous aimez beaucoup.
Churchill, oui, ouais. C'est le 6 février, il fait froid. Hein. 7h30, le maître d'hôtel vient réveiller George VI, le trouve mort. Le père d'Elisabeth avait 56 ans seulement, mais les années de guerre comptent triple. Alors le maître d'hôtel arrête le bain qu'il avait commencé à faire couler. Pendant le conflit, un coup de pinceau dans la baignoire indiquait la limite que l'eau ne devait pas dépasser. C'est que la famille royale ne s'excluait pas du lot commun. Par exemple, un stand de tir avait été installé à Buckingham. Et Elisabeth et sa sœur Margaret s'y entraînaient. C'est cette expérience qui, au début de la pandémie, a fait dire à la reine devant les caméras « Nous nous retrouverons, cette fois, c'est pas la guerre ».
Philippe Collin, soyez gentil, vous qui êtes resté réparer la clim qui a cassé Jean Lebrun, on gèle dans ce studio. Alors, au moment de la mort de son père, Elisabeth est absente de Londres. La reine, sa mère, est la première qu'on peut prévenir. Puis c'est le Premier ministre Winston Churchill, votre cher Winston, revenu au pouvoir l'année précédente.
9h30, il est encore au lit avec les journaux, des œufs au bacon, des saucisses, du café. Jeune, il ne buvait pas avant le déjeuner. À 79 ans, il a décidé de ne pas boire avant le petit déjeuner. On vient donc de lui servir son premier whisky, éclairci d'eau de Sels. Il a allumé son premier cigare et sa première réaction... Elisabeth, 25 ans, ce n'est encore qu'une enfant, mais il l'apprécie beaucoup. Il avait d'ailleurs proposé à George VI de la faire princesse de Galles, en vain, mais il avait insisté sur les promesses qu'elle incarnait.
Mais où est-elle, ce jour-là ?
Eh bien, dans une cabane, aménagée en haut d'un figuier géant, en voyage officiel au Kenya. Elle a passé la nuit avec le prince Philippe, à observer le manège nocturne des rhinocéros et des antilopes aux longues cornes. On ne peut l'atteindre qu'une fois qu'elle est revenue au bungalow du gouverneur. Il lui faudra 20 heures d'avion pour rejoindre Londres. Qu'elle soit au Kenya en dit long, elle y entamait un périple dans le Commonwealth qui devait durer 4 mois. Sa titulature, j'arrive pas à le dire, va indiquer d'ailleurs qu'elle est souveraine de beaucoup de peuples. Mais différence avec celle de son père, elle n'est plus impératrice des Indes. Churchill en reste inconsolable. « J'étais prêt, dit-il, à défendre l'Empire britannique contre n'importe qui, mais pas contre le peuple britannique. Si celui-ci n'y tient plus, ce sera le Commonwealth. » Les immigrés qui en viennent n'affluent pas encore. Les premières limites qu'ils auront à subir n'interviendront que dans les années 60. Mais Churchill prévient, le pays ne doit pas devenir une pie, c'est-à-dire avec autant de noirs que de blancs. Le lion britannique, ajoute-t-il, ne doit pas devenir non plus l'animal de compagnie des États-Unis. En même temps, c'est à eux qu'il veut se joindre. En 51, il a refusé la proposition d'adhésion à la communauté économique du charbon et de l'acier et a des premiers rendez-vous hebdomadaires avec la reine semblent avoir porté sur le premier essai nucléaire que va réaliser le Royaume-Uni. Jusqu'où a-t-il besoin du concours américain ?
Churchill drive la reine donc, mais en même temps, l'avènement de cette jeune reine va l'aider à prolonger son propre règne.
Bah oui, parce que chaque semaine, l'audience avec elle le rajeunit. Elle se prolonge bien au-delà des horaires prévus. On entend des éclats de rire de l'autre côté de la porte et Churchill ragaillardi sort en disant « Elle est en beauté ce soir !» Ils ont fixé ensemble la date du couronnement. Churchill, à dessein, l'a choisi tardive, juin 53. Il se dit qu'il ne peut évidemment pas partir avant cette date.
Bah tiens.
Son successeur désigné, Eden, s'impatiente. Il voudrait disposer d'assez de temps à Downing Street pour s'imposer avant les prochaines législatives. Mais, en novembre 53, voilà que Churchill reçoit le Nobel pour ses 6 volumes de mémoire de guerre. C'est pas fini, il y en aura d'autres après. Il dit à Étienne, qui est aux affaires étrangères, rassurez-vous, c'est pas le Nobel de la paix, c'est seulement celui de littérature. Aurait-il gagné aussi celui de la paix? Bah oui, peut-être, parce que s'il retarde tant son départ, c'est qu'il voudrait faire quelque chose avec les Russes. Staline est mort en 53, une opportunité s'ouvre de réunir une conférence internationale qui pourrait lui donner son dernier grand rôle. Mais ses initiatives échoueront, il se résout à partir en avril 55. La reine et le prince Philippe viennent dîner à Downing Street, fait unique, et le soir, se débarrassant de sa culotte de soie et de ses breloques de nouveau chevalier de l'ordre de la Jarretière, Churchill soupire, fait semblant de plaindre Eden. Il va pas réussir. Et on dit que des 14 premiers ministres que la reine a connus, bah son préféré c'est
Churchill. Sur les premiers pas d'Elisabeth, on peut lire le livre d'Isabelle Rivière, Naissance d'une reine chez Fayard. Merci Jean Lebrun, bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Au feu, la forêt.
Ouais, une question à nos invités, les incendies vont-ils se multiplier en France?
À tout de suite.